Ahora sí, Arnaud Tambert es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Lille 3, maître de conférence desde el año 2001, investigador de l'École du Louvre desde el año 2006, también delegado regional de la Société Française d'Archéologie pour la Seine-et-Marne, miembro del Conseil Laboratoire de l'Histoire et l'Archéologie de Picardía, y administra igualmente la Société de Fouilles Archéologiques et de Monuments Historiques de Lyon. Especialista del arte medieval en arquitectura y escultura gótica, es autor de varias publicaciones, entre ellas Vézelay, Le Chevet de la Madeleine, Le Premier Gothique Bourguignon. Es igualmente el director científico de la Catedral de Boilé y sus ejes de investigación son en arquitectura, materiales y técnicas constructivas en relación con Notre-Dame de Noyon, también de Saint-Pierre de Beauvais, y también le interesa particularmente la arquitectura neogótica, por lo tanto, intervenciones posteriores, y también son materias en las que ha trabajado el mobiliario y el lapidario medieval, especialmente en la región de Picardía. Ha sido comisario de la exposición Le Bois, le Métal et la Pierre dans les Monuments Gothiques en Noyon, 2006-2007, recientemente, y participado en numerosos congresos y seminarios, como en relación con Vézelay, Reconstruire Vézelay y Restaurer la Bourgogne, Le Choix des Matériaux, chez Eugène Viollet-le-Duc. Y finalmente, junto con Stéphanie Dassy, que hemos tenido el placer de escuchar hace un momento, es miembro del Comité Científico de Materialité et la Immaterialité de l'Église au Moyen Âge, que se interesa, por lo tanto, y trabaja aspectos litúrgicos más allá de los materiales. Muy bien, Arnaud Tambert, cuando quieras. Ahora voy a ponerte el PowerPoint.
Bien, merci. Merci a Gerardo por esta invitación. Donc, je vais essayer de parler assez vite, de telle sorte que nous ne mangions pas à l'heure du goûter, hein, puisque là, il se fait tard. Et donc, je vais continuer l'investigation de ce monument assez complexe qui est la cathédrale de Noyon, mais sur un autre sujet qui est celui des mobiliers lapidaires, des fragments de pierre, donc inhérents aux destructions depuis la Révolution et surtout durant la Première Guerre mondiale. Donc nous avons réalisé un programme de recherche en Picardie qui consistait à investir les monuments par le biais de leur dépôt lapidaire, par le biais de ces matériaux déposés, de telle sorte à appréhender les monuments d'une manière plus technique, en regardant les blocs sur ces faces que l'on ne voit jamais, justement, lorsqu'ils sont mis en œuvre. Donc nous avons fait plusieurs inventaires, ici à la cathédrale de Senlis. Nous avons également inventorié, mais surtout trié, les fragments qui proviennent de la restauration de la cathédrale de Laon. De même, nous avons trouvé des dépôts lapidaires dans un état médiocre. Nous avons donc inventorié, étudié, rangé et aussi ouvert au public ces fragments. Même chose à Saint-Lucien de Beauvais, ce qui nous a permis de trouver des fragments inédits et d'une première importance, notamment à Saint-Jean-des-Vignes, dans le dépôt de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes de Soissons, une tête de roi du XIIIe siècle qui peut provenir du portail de la façade occidentale de la cathédrale de Soissons, portail qui a été totalement détruit à la Révolution. Ce serait donc là le seul témoin. Et nous avons donc inventorié l'ensemble de ces sites en totalité. Mais parmi tous ces sites, il en est un qui, dans ce programme de recherche, est particulièrement riche, c'est celui de la cathédrale de Noyon, que je vais vous présenter, même si, vous voyez, il nous reste encore beaucoup de dépôts lapidaires à étudier, des dépôts lapidaires qui sont à Mont-Notre-Dame, par exemple, en Picardie, en plein champ, ou des dépôts lapidaires qui sont des remplois, puisqu'ici, nous avons à Mont-l'Évêque, à côté de Senlis, une très belle petite chapelle néo-gothique, donc à Senlis, en Picardie. Et l'ensemble de ce décor, ici flamboyant, provient du jubé des Carmes de la ville de Metz. Donc nous avons un déplacement du mobilier et un réemploi dans une architecture du 19e siècle. Donc on considère ceci comme un dépôt lapidaire, surtout quand on voit l'état d'abandon du monument. Donc ce programme de recherche a donné lieu à deux publications déjà. Une première, l'architecture en objet, les dépôts lapidaires de Picardie, que j'ai dirigé avec ma collègue Delphine Anquier, et un second qui vient de paraître sur les dépôts lapidaires de la France du Nord en général, donc sur Jumièges notamment, parmi d'autres exemples, qui vient d'être publié aux éditions du CNRS par ma collègue Delphine Anquier qui a repris ce programme. Donc je souhaite aujourd'hui vous faire part d'un sujet recentré autour de ce programme de recherche sur la cathédrale de Noyon, donc voilà, qui se situe, comme Stéphanie Diane vous l'a dit, entre Compiègne et Saint-Quentin, au nord de Paris. Donc c'est une cathédrale avec un chevet à chapelle rayonnante, transept hémicirculaire, nef, le tout voûté d'ogives, et qui est introduit à l'Occident, sur cet espace dont je vais vous entretenir aujourd'hui, à l'Occident, par un massif de façades à deux tours, précédé ici d'un porche. On va principalement s'intéresser aux trois portails qui sont protégés par ce porche, les trois portails de la façade occidentale qui ont été entièrement détruits à la Révolution en 1793, puisqu'il y avait des lois qui permettaient ce genre de vandalisme, puisque le mot date de cette période. Et l'objet de mon étude était d'étudier ces portails et de les étudier à la lumière des fouilles qui ont eu lieu dans les années 1920 et qui ont effectivement mis au jour, inventé un ensemble de fragments, dont des fragments figurés. Ces fragments figurés, on les a retrouvés en étudiant le dépôt lapidaire, il y en a 700, et qui proviennent très vraisemblablement, donc ou qui provenaient à l'époque, on n'en était pas certain, de ces trois portails de la façade occidentale. Donc des fragments qui avaient été sciemment enterrés, inhumés au sens propre, par les ecclésiastiques en 1793, lorsqu'ils avaient été détruits par les révolutionnaires. Étant des éléments consacrés, ils ne pouvaient pas sortir du lieu consacré. De la cathédrale en tant que sculpture, sur ses portails, il reste ces quatre modillons qui sont très très beaux, qui ont été à la source d'une littérature très abondante, dont on évoquait le problème avec Claudia tout à l'heure, sur le maître de Naumbourg, que vous connaissez tous, avec cette belle Uta, qui a été aussi reprise pour la sorcière dans Blanche-Neige. Et donc il y a eu cette exposition, il faut que je fasse une parenthèse, c'est important puisque j'ai le temps, puisque Claudia a commencé son exposé par une très belle historiographie et une appropriation de l'art médiéval par la politique contemporaine, ça continue, n'est-ce pas ? Puisqu'il y a eu cette grande exposition qui était un scandale, nous sommes d'accord avec Claudia, à Naumbourg, dont Stéphanie Diane était commissaire scientifique pour la France, mais elle est partie avant la fin. Et on nous a demandé d'écrire un article sur le maître de Naumbourg à Noyon. Nous avons produit notre article et on nous a demandé de changer les conclusions pour que l'historiographie de ce maître de Naumbourg, qui est une complète invention et un complet montage intellectuel de l'histoire de l'art du 19e et surtout du début du 20e siècle, soit véritablement mis dans le mythe, replacé dans le mythe de la grande Allemagne, de la grande Europe, que sais-je. Bon, bref. Mais ce qui est important, c'est que le monsieur qui a dirigé cette exposition, qui est le grand Hartmut Krohm, grand conservateur du musée de Berlin, est un homme qui est né dans les années 1924-1927. Voilà, donc il a subi, vécu aussi la période difficile pour les enfants, psychologiquement, puisqu'ils avaient été aussi quand même embrigadés, les enfants allemands. Le mot n'est pas très juste, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc je pense que c'est un vieux monsieur maintenant. Il est encore dans cette perspective d'une historiographique ancienne et je pense inconsciemment, même s'il nous demande consciemment de changer notre article, inconsciemment, il est encore dans cette perspective-là, qui a produit une exposition qui est un scandale scientifique, mais il faut aller la voir quand même. Au moins, les objets sont beaux. Donc, il reste de ces trois portails de la façade occidentale que ces modillons d'une très rare et très belle qualité qui laissaient justement présager le chef-d'œuvre qu'étaient ces trois portails, qui sont aujourd'hui un maillon manquant, qui sont aujourd'hui une perte considérable entre Amiens et Reims. Donc, pour l'étude et du style, notamment, et des techniques de construction, c'est une grande perte. Il reste également ce premier niveau, ce premier registre du tympan central, où vous voyez des ressuscités, ce qui nous permet de reconstituer très facilement pour cette période où l'iconographie est standard, un jugement dernier avec un Christ de douleur, tel qu'on le voit à Notre-Dame, à Bourges, à Chartres, à Saint-Omer, etc. Et donc, pour l'iconographie, ce n'est pas un problème. Au même titre, le portail sud, on peut très facilement reconstituer, d'après les dessins des restes, on peut reconstituer un couronnement de la Vierge. C'est ce que l'on a, d'ailleurs, à Amiens et ailleurs. On est dans le cadre d'une iconographie très standard, postérieure à Latran IV. Le portail, donc les portails sont ici, ils sont préservés et protégés par un porche. Tout le problème consistait pour moi à savoir, avant de relier les fragments du dépôt lapidaire à l'un de ces trois porches, de connaître la chronologie du bâti. Les portails latéraux se composent de deux portes, d'un tympan, de voussure, donc c'est très classique, et d'ébrasements étagères, c'est-à-dire constitués d'un soubassement sur lesquels étaient posées des statues qui n'étaient donc pas colonnes ici, le tout protégé par des dais feuillagés. Le portail central, lui, bénéficiait d'une écriture légèrement différente, puisque nous avions toujours sur ce soubassement des colonnes, mais des statues-colonnes, puisque ces colonnes ont été disposées au XIXe siècle. Il faut restituer ici des statues-colonnes déposées, détruites à la Révolution. Donc une autre mise en page pour ces ébrasements, une distinction d'écriture entre les portails latéraux et le portail central. Entre ces trois portails, ce qui n'est pas commun, là où ailleurs on cherche une fusion esthétique entre les portails, vous avez des piles composées, appareillées de plusieurs tambours et flanquées sur leur côté de colonnes monolithes. Les soubassements des trois portails sont décorés de ces plaquages de quadrilobes et de décors de quatre feuilles de gaufrure. En partie supérieure, il reste des départs de gables avec des fleurons, des quadrilobes, donc une écriture rayonnante, relativement facile à dater, d'autant que le décor feuillagé qui orne ces dais nous renvoie tout à fait à la période rayonnante des années 1230, 1240, ces grandes feuilles d'acanthe ici qui tapissent également l'ébrasement ici à Noyon. C'est ce que l'on retrouve dès les années 1225-1230 dans le décor de la cathédrale de Reims qui n'est pas éloignée du tout. Et ce décor feuillagé tout à fait naturaliste, on le retrouve toujours à Noyon, ici de l'aubépine, ici du lierre, on le retrouve soulignant les voussures, donc un décor d'une très grande qualité. Ce caractère tout à fait naturaliste, on le retrouve par ailleurs, donc ici à Noyon, on le retrouve encore une fois à Reims dès les années 1210. Donc il y a un emploi assez tôt de ce type de décor, ici pour les chapiteaux du portail central de Noyon, donc du lierre, que l'on retrouve ici dans les années 1240, dans un traitement relativement similaire, si on le compare, avec ces feuilles déposées sur l'aplat vide des corbeilles, on le retrouve à Saint-Germain-des-Prés. Les bases de ce portail central sont des bases à tore supérieur ondulé, avec le tore inférieur saillant sur une plinthe polygonale. C'est tout à fait ce que l'on retrouve à la cathédrale d'Amiens. Nous avons des plinthes polygonales, un tore inférieur saillant et le tore supérieur ondulé. C'est tout à fait le profil des bases que nous avons dans les années 1230-1240. Or, il y a un léger souci entre le décor très naturaliste des années 1230-1240 des portails et le décor des porches. Effectivement, les chapiteaux des porches, ici, sont des chapiteaux à crochets, extrêmement secs, beaucoup plus fins, simples, avec des palmettes côtelées, des échines très développées, et le tout relativement standardisé. Nous sommes dans les années 1210-1220, peut-être donc un petit peu avant le décor des portails. Même chose pour les bases ici, les bases des piles composées. Elles n'ont pas de tore supérieur ondulé, elles ont une scotie surcreusée. Bon, ce sont des détails de modénature, mais qui révèlent une mise en œuvre antérieure au décor des portails eux-mêmes. Donc nous avons relevé pierre à pierre les trois portails sans les voussures, parce que c'est trop compliqué, ce n'est pas dans nos capacités graphiques. Et nous avons particulièrement regardé les piles intermédiaires de ces portails. Et d'emblée, l'on voit que les joints, n'est-ce pas, des piles ne sont pas en continuité de parement avec les joints des ébrasements, tant des portails latéraux que du portail central. Il y a donc une distinction dans la mise en œuvre. Effectivement, lorsque l'on regarde de plus près, nous avons ici ce plaquage, qui est un véritable plaquage de gaufrure. Donc c'est un décor qui a été disposé a posteriori, accroché avec des pattes métalliques, et le tout achevé pour se liaisonner à l'œuvre antérieure avec du stuc. Le tout étant peint, donc ça ne se voyait pas. Même chose, on voit que cette base a été cassée, ici, cassée parce qu'on a disposé, encore une fois, ce plaquage après. Donc il y a plusieurs phases ici qui apparaissent. Mais surtout, à hauteur des chapiteaux ici, vous voyez que les chapiteaux ne sont pas appareillés avec le mur de fond. Qu'il y a donc, les chapiteaux ne font pas queue dans la maçonnerie, il est simplement plaqué. Et comme ça s'est écarté, on voit bien qu'il y a une distinction entre l'architecture, le montage de ces ébrasements et la construction de ces piles composées. On comprend bien pourquoi maintenant il y a des colonnes monolithes ici, sur les côtés, puisque ces colonnes monolithes cachent en fait le joint vertical, le joint de jonction entre la pile et les ébrasements des portails. Nous avons donc un portail qui a été construit avant les porches. Un portail construit dans les années 1210 et un porche construit dans les années 1210 et des portails construits plus tard dans les années 1240. Alors là, les couleurs sont totalement détruites par la projection, mais chaque couleur correspond à une nature géologique. Donc nous avons un patchwork de pierres et de fournitures géologiques. Donc là, on ne voit pas bien les distinctions, je suis désolé. Le jaune est un type, ici c'est un autre type, et je veux vous parler ici de ces pierres qui sont là. Donc cette teinte légèrement grise ici sur cette projection, normalement ça c'est rose sur mon PowerPoint. Donc vous voyez ici, il y a des pierres qui sont différentes, ce sont celles-ci, pas besoin de faire un dessin d'ailleurs. Et ce sont des pierres de grès qui sont employées dans des murs en calcaire. Ce grès, on le retrouve à l'extérieur du porche, jusqu'à une hauteur de 5 mètres, ici. Et on le retrouve dans les escaliers du massif de... bien une construction des porches, dans un premier temps. On construit le porche, on construit les ébrasements extérieurs des portails et le massif de façade sur une hauteur de 5 mètres. C'est-à-dire le porche, mais pas les portails ici, juste les ébrasements extérieurs, les escaliers sur une hauteur de 5 mètres. Et ceci, on le voit bien lorsqu'on étudie les outils de taille de la pierre. Vous avez deux types d'outils, pour faire simple, d'utiliser à la cathédrale de Noyon, des outils à lame droite et des outils avec des dents, qui laissent des traces sur la pierre tout à fait reconnaissables. Les outils à lame droite sont utilisés, ce sont les pastilles bleues, dans le cœur, dans le transept ici, et jusqu'à la moitié de la nef. Et dans les années 1100-1210, il y a une grande révolution technologique en Picardie, où on abandonne les outils à lame droite pour les outils à lame dentée. Et l'on voit qu'ici, les outils sont abandonnés, justement, au profit de ces pastilles oranges qui signifient l'emploi d'outils dentés. Mais, ici, vous voyez qu'il y a une transition. Il y a à la fois des lames dentées, pastilles oranges, et des lames droites, pastilles bleues. Donc, le transfert, la transition technologique s'est faite ici. Le chantier s'est arrêté là. Les ouvriers se sont déplacés à l'occident, ont construit sur une hauteur de 5 mètres le massif de façade et sont retournés ensuite finir la nef une fois que le transfert technologique entre les deux outils s'est fait. Et ici, on n'a plus que des outils dentés. C'est ce que l'on voit également à la cathédrale de Soissons. C'est-à-dire, on a borné le chantier. On a construit le chœur, l'évêque, puis il a construit les trois portails. Pourquoi ? Pour borner le chantier. Parce que nous sommes en contexte urbain dense, la cathédrale prend beaucoup plus de place que la précédente, et l'évêque a été dans l'obligation d'acheter des maisons, pour raser des maisons, pour gagner du terrain. Et pour obliger également son successeur à mener le projet tel qu'il a été défini à l'origine, il borne le chantier, de telle sorte que son successeur soit dans l'obligation de mener le chantier tel qu'il a été défini. C'est ce qu'on retrouve aussi à la cathédrale d'Auxerre. On construit le chœur dans les années 1200 et on plante en même temps le massif de façade, alors que la nef romane est toujours présente, pour borner le chantier, pour occuper le terrain. C'est donc ce qui s'est passé à la cathédrale de Noyon. Donc nous avons bien un porche construit sur 5 mètres, dans les années 1210, avec le massif de façade. Puis les ouvriers retournent dans la nef, finissent la nef, et reviennent, et là, on finit et on construit les portails dans les années 1240. Donc il y a une distinction très nette. Et ces portails, si on les regarde un peu plus, il y a effectivement une distinction importante de calcaire. Il y a des choses intéressantes, comme ici, sur ce trumeau, où on utilise toutes les pierres possibles. Il y a cependant des choses relativement homogènes, comme la pierre verte, ici, qui est un calcaire très dense pour les piles et les ébrasements. Et puis, on utilise ici, pour le trumeau du portail nord et le trumeau du portail sud, du calcaire lutétien, qui est un calcaire très dense, très dur, tout à fait valable pour ce genre de pièces architectoniques. Mais sur le trumeau du portail central, on utilise du calcaire lutétien à Milliol, qui a été utilisé aussi pour toutes les sculptures, justement parce qu'il est très, très, très léger, très facile à sculpter, mais aussi très fragile. Pourquoi a-t-il donc été utilisé pour le trumeau ici, alors que le trumeau porte ? Parce qu'on a préféré utiliser du fer dans la structure. Certainement, y avait-il là un problème donc de coût de la pierre. Et on a préféré utiliser ici un trumeau dans un calcaire fragile, en l'armant, en le renforçant par du fer. Cela était toujours moins cher que deux pièces en liais, comme celle-ci, qui était très vraisemblablement coûteuse. Ce qui nous intéresse cependant le plus en rapport avec la sculpture, c'est ces pastilles jaunes, ici, qui sont très dispersées, vous voyez, néanmoins concentrées sur le portail central. Ces pastilles jaunes, c'est du calcaire rémois, donc c'est assez loin de Noyon quand même, mais même si Noyon est dans l'archevêché de Reims. Donc vous avez la crasse ici, marron, de la pollution, et en dessous vous découvrez une pierre qui est ocre, avec des petits coquillages blancs. Des petits coquillages blancs et de couleur ocre. C'est exactement la pierre qui est utilisée à Reims pour les sculptures de la façade occidentale. Et effectivement, on voit ici au premier niveau de ce tympan central, ces ressuscités que je vous ai montrés tout à l'heure et qui sont beaucoup moins bien détruits que les autres sculptures. Les autres sculptures étant faites dans une pierre très fragile, elles étaient faciles à détruire. Celles-ci sont dans un calcaire dense, très difficile à détruire, donc les ouvriers révolutionnaires ont laissé un peu tomber, ce qui nous donne des pierres dans ce calcaire rémois encore présentes, justement parce qu'elles sont de très très bonne qualité. On retrouve pour les dais, ici, ce calcaire rémois qui donc protégeait des statues colonnes très vraisemblablement en calcaire rémois. Et c'est ici que la jonction avec le dépôt lapidaire se fait. Donc tous les fragments de sculpture que nous avons retrouvés ont été analysés par un géologue pour savoir de quelle nature géologique il s'agissait, de telle sorte à pouvoir les attribuer à l'un des trois portails de la façade occidentale. Et nous avons retrouvé des fragments, beaucoup de fragments en calcaire rémois. Donc des fragments d'architecture miniature qui composaient les dais du portail central. Une tête de reine tout à fait exceptionnelle qui est à l'exposition de Naumbourg d'ailleurs, avec son bandeau doté de gemmes et puis ses fleurons feuillagés, ses fruits grenus, ce voilage qui passe par-dessus ses cheveux, donc quelque chose de très délicat qui renvoie à ce que nous avons justement à la cathédrale d'Amiens. Un traitement de l'œil qui est très beau, avec ce lobe intérieur très, très prononcé, mais surtout une paupière inférieure horizontale, une paupière supérieure en accolade, comme ceci, et le sourcil qui n'est qu'un trait, comme une virgule continue. Donc c'est très plastique. Donc très vraisemblablement une sculpture d'une très grande qualité. Nous avons aussi des pieds, très importants les pieds, parce que ça nous donne les dimensions des personnages, qui reposaient sur des nuées, ici. Un buste, le bras gauche, qui tient un livre. La ceinture, la chemise, le manteau plissé et le manteau lisse. Un bras, très beau bras, qui est intéressant puisque il se tend, et en se tendant, il tend la chemise qui épouse véritablement et rend compte de l'anatomie avec le manteau qui passe derrière. Vous voyez les coquillages. Donc le bras est horizontal. Ici, mince, pardon. Et les coquillages sont horizontaux. Donc, cette sculpture qui n'était pas un gisant était disposée à la verticale. Donc, nous sommes devant une sculpture monolithique en délit, donc une statue colonne. Je voulais que je répète. Oui, ça va, Gérardo ? Donc le calcaire, effectivement, horizontal, disposé verticalement dans l'architecture, il s'agit bien d'une statue colonne monolithe. D'autres fragments très beaux, avec des drapés très lisses, très épais, typiques de ce que l'on a dans ces années 1230-1240. Puis d'autres, alors ceux-ci employés dans d'autres calcaires, notamment le calcaire à Milliol pour les tympans, avec des encensoirs, très vraisemblablement des parts et d'autres pour les anges du couronnement de la Vierge, des départs d'arcatures, ici, on a retrouvé d'autres fragments qui permettent de déterminer les registres des tympans, des fragments de personnages assis, rois, certainement, ici, qui sont présents en négatif grâce à la polychromie. Tout ceci, ces fragments de noyons, sont très proches de ce que l'on a encore une fois dans les années 1230-1240, avec ces drapés tuyautés. Je passe sur le style, mais j'insiste sur ce regard, sur cet œil, que l'on retrouve tout à fait avec ce sourcil, ici, tout à fait sur les anges de Reims qui sont donc sur le chevet. Cette tête en calcaire rémois de Noyon, très proche, ou tout du moins typologiquement apparentée à ce que l'on trouve à Paris et à Amiens. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le matériau ici nous permet de repenser le chantier, et notamment ce calcaire rémois. Comment expliquer que du calcaire rémois soit présent à la cathédrale de Noyon, qui est une cathédrale qui ne manque pas, par son domaine géographique, qui ne manque pas de diversité géologique et d'une pierre de bonne qualité pour la sculpture. Pourquoi ? Parce que justement, dans ces années 1240, à Reims, le grand chantier de la cathédrale fait grève. Grande tradition française. la grève. Donc, le chantier chôme, le chantier s'arrête pour diverses raisons, qu'importe. Mais contrairement aux fonctionnaires français, quand un tailleur de pierre ou un sculpteur au Moyen-Âge fait grève, il n'est pas payé. C'est ça le problème, que nous on peut faire grève mais on est quand même payé, ce qui est le grand scandale de la France. Mais donc il faut que ce tailleur de pierre vive. Il peut avoir une revendication sociale à Reims et arrêter de travailler à Reims, mais il faut qu'il travaille ailleurs. Donc il n'est pas impossible que durant ces années, ce qui stylistiquement fonctionne, ce qui en termes d'archéologie du bâti fonctionne dans ces années 1240, des sculpteurs rémois soient venus travailler à Reims, à Noyon, pardon, et en plus être imposés de travailler dans leur pierre, la pierre dont ils avaient l'habitude à Reims. L'autre question est de savoir comment sont-ils venus. Est-ce que la pierre est arrivée prête, toute sculptée, comme on le voit déjà au XIIe siècle, ou est-ce qu'ils sont venus sur place avec des matériaux bruts? Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'ils sont venus sur place, les sculpteurs rémois, avec des matériaux bruts. Et ils ont travaillé sur le portail central. Ils ont fait les statues-colonnes en calcaire rémois. Et puis, il leur restait beaucoup de fragments. Ils ont donc fait les chapiteaux du portail nord. Et puis après, ils ont employé ce qu'il leur restait à droite et à gauche. Si ça avait été fait à Reims, si le matériau avait été sculpté à Reims, il n'y aurait pas eu de surplus. Et tout du moins, cette diversité-là de calcaire rémois isolé, réabsorbé dans l'œuvre en général, ne s'expliquerait que difficilement. Donc je pense vraiment que là, nous avons des sculpteurs qui sont venus à Noyon durant les années 1240 et ils sont venus avec des matériaux bruts. Donc le matériau nous permet de reconsidérer l'étude des formes. Et en passant par la nature géologique de ce calcaire rémois, on peut enfin établir un lien très étroit entre le grand chantier de sculpture de la cathédrale de Reims et le chantier de la cathédrale de Noyon. Tout ceci a été en partie expliqué dans ce dernier livre, en toute petite partie, un peu quand même, si je l'évoque, dans un article justement qui concerne les fouilles, donc dans ce livre que nous avons dirigé avec Stéphanie Diane sur la cathédrale de Noyon. Je vous remercie.
Merci beaucoup, j'ai beaucoup appris. Hein. Dicho muchas gracias, he aprendido mucho. Yo creo que hemos tenido la suerte hoy de asistir en esta ponencia a un planteamiento de lo que puede ser o lo que debería ser el camino de muchos historiadores del arte en el futuro, entre los que me encuentro, que debemos interesarnos por observar la arquitectura y estudiar la arquitectura utilizando nuevos métodos y, desde luego, nuevas metodologías. Nos ha definido esta metodología, en parte, nuestro conferenciante como la géologie du bâti. que nosotros traduciríamos como arquitectura vertical o lecturas de paramentos o lecturas arquitectónicas. En todo caso, una metodología en la que los historiadores del arte en general, entre los que me incluyo, no somos demasiado hábiles, siempre preocupados por cuestiones más de tipo estilístico que por cuestiones del material. Yo quisiera destacar en este sentido que, por una parte, la presentación que nos ha hecho el conferenciante de la importancia de los materiales en relación con la importancia de la utilidad, de la utilización de un tipo de herramientas que, conforme al perfil que tengan, liso, dentado, suponen una modificación del bloque del sillar y, por lo tanto, permiten una identificación en el edificio de etapas sucesivas. Y esto en relación luego con otros aspectos, por ejemplo, en el caso de Noyon, con las diferentes fases, creo que clarifican perfectamente, ponen en su lugar lo que en otro caso sería imposible, el estudio de un monumento que está altamente deteriorado y que prácticamente de otro modo sería imposible conocer. Pero sobre todo yo creo que interesa todas las puertas que abre. Me gustaría saber, al menos particularmente, si este tipo de metodología, por ejemplo, la utilización de estas calcáreas que vienen de Gans o que vienen de Lutèce, si este tipo de calcáreas utilizadas para partes concretas, que son partes más sólidas, más frágiles, etc., si las han podido localizar, la selección de la piedra en función de su, en otros casos.
Oui, les autres pierres utilisées pour le portail de Noyon sont bien localisées. Et puis il y a d'autres exemples donc de ce type de méthodologie d'analyse du matériau pour réévaluer l'analyse des formes et notre appréciation des formes, et notamment sur le portail, les grands portails de la cathédrale d'Auxerre. Donc en Bourgogne, selon des méthodes qui ont été impulsées par Christian Sapin, au Centre d'études médiévales d'Auxerre, que vous connaissez peut-être. Mais c'est surtout notre collègue Yves Esquieux et Andreas Hartmann-Wirnicht, en Provence, qui ont fait débuter ce type de prospection avec le grand portail de Saint-Trophime d'Arles, où il y a une analyse de chaque bloc, une analyse géologique qui permet de retourner au ventre du monument qui est la carrière. Voilà, puisque l'histoire du monument commence à la carrière, donc dans son ventre. Et aussi, bon, j'ai montré du fer, c'est la même problématique. D'où vient le fer qui est employé dans la mise en œuvre des portails? On sait que les voussures maintenant, les voussures sont toutes agrafées par des pièces de fer, par des pièces métalliques. Donc d'où vient le fer? Donc il y a des analyses qui sont faites dans la même perspective que celles faites en géologie, qui sont des analyses métallographiques, à savoir d'où vient le minerai, comment il a été réduit et transformé en fer, et avec quel outil, puisqu'il y a la grande révolution du marteau hydraulique au XIIe siècle qui change l'architecture.
Si, en définitive, se trata de mirar la arquitectura desde el punto de vista de la técnica constructiva. Y entendiendo la técnica, las herramientas, los sistemas, entender mejor la construcción de la arquitectura y, por lo tanto, saberla leer mucho mejor de lo que hacemos habitualmente. ¿Hay algo que no nos haya contado hoy y que nos pueda contar? ¿Algo más? Porque ha sido un poquito... A mí se me ha hecho muy corto, la verdad, ¿eh? No sé a los demás, pero... Por ejemplo, ahora, a partir de aquí, claro, hemos visto que tienen restos lapidarios en otros conjuntos que están pendientes.
Là, j'ai pas compris, là.
Vous avez des restos lapidaires... Oui. Que vous devez encore étudier, vous nous avez montré tout au début. Alors, quelle surprise vous pouvez nous annoncer?
On a plein de surprises. Hein,
prochainement, voilà. On va vous suivre à partir de là.
Là, on a visiblement, on est sur une piste avec Stéphanie Diane d'un grand retable de la période flamboyante, qui est en 1000 morceaux dans le dépôt lapidaire. Donc, il faudrait savoir d'où il vient dans la cathédrale et reconstituer. C'est un chef-d'œuvre de sculpture. Mais bon, en 1000 morceaux, qu'y a-t-il d'autres qui seraient intéressants? Il y a aussi des plâtres, hein, des estampages, des plâtres qui ont été utilisés à la période 17e, 18e siècle, qui sont assez intéressants. Il n'y a pas que le Moyen-Âge. Mais sinon, il y a pas mal de fragments qui proviennent du chœur et peut-être de la cathédrale antérieure. Voilà. Mais là, c'est compliqué encore. On ne sait pas trop comme... Et la poutre de... Et les poutres.
Preguntas, por favor. Voilà, surprise.
Non, non, mais si, si, il faut absolument venir. Mais ce que tu dis est naturellement évident, et ça pose un vrai problème disciplinaire, mais aussi un problème humain. Parce que c'est ce qu'on disait hier avec Vinnie à table, on ne peut plus faire une monographie de monuments seul. Et l'historien de l'art, qui aime bien les coquelicots et les fleurs, est nécessaire. Mais le fait est qu'il doit savoir, l'historien de l'art de la construction, doit savoir se régénérer, réapprendre, s'enrichir au contact de la matière. Voilà. Le fait est que, je ne sais pas pourquoi, mais au XIXe siècle en France, quand est née l'histoire de l'art en France, les historiens de l'art qui ont créé la Société française d'archéologie, Arcis de Caumont, etc., étaient des gens qui travaillaient avec des géologues, étaient des géologues eux-mêmes. Et ils avaient une connaissance de la matière qui était très forte. Et puis après, ça s'est dégradé. Quand l'histoire de l'art est devenue une vraie discipline universitaire, là, les enseignants sont restés dans leur bureau, avec leurs petits étudiants, voire leurs petites étudiantes. Et donc, là, à partir de ce moment-là, il y a une intellectualisation de notre objet d'étude, qui est l'architecture. Et on a oublié toute la part matérielle. Je pense que maintenant, tout le problème est de réconcilier l'analyse matérielle et l'analyse immatérielle, la liturgie, tout ce que tu disais, la liturgie, du moment où la pierre est extraite au moment où elle est consacrée, où elle est spirituellement activée, tout ce cheminement là qu'on doit reconstituer. Mais là, il faut être des équipes, on ne peut pas faire ça seul. Et en France, en ce moment, je ne sais pas si ça existe ici en Espagne, mais si, bien sûr, puisque vous êtes à l'origine de cette nouveauté, il y a les historiens de la construction. Alors, qui sont les historiens de la construction? Est-ce que ce sont des ingénieurs? Est-ce que ce sont des historiens de l'art? Est-ce que ce sont des architectes? Il y a les historiens de l'art, il y a les archéologues du bâti. Tout ceci provoque un écartèlement disciplinaire et on ne sait plus qui est qui. Il faudrait que l'architecture médiévale devienne un laboratoire où tout le monde se retrouve. C'est pas facile. Oui, on doit le faire, oui.
Alguna otra? Sí, dos preguntas más.
Non, alors, une carrière, ce n'est pas qu'un seul trou. Une carrière, c'est un filon qui s'étend sur des centaines de kilomètres parfois. Et donc, il y a le chapitre qui possède sa carrière, et puis il y a des propriétaires privés qui possèdent leur carrière et qui vendent leurs pierres aux grands chantiers de construction, d'ailleurs, hein, et qui ont exactement la même pierre. Il y a aussi la polychromie. Et les trois portails, dotés d'images différentes, étaient aussi dotés de revêtements polychromes différents. Et donc, il y a une stratigraphie de la polychromie qui permet d'attribuer avec certitude tel ou tel bloc à tel ou tel des trois portails. Et puis, ça, c'est une chose. Mais la dernière chose, c'est que le calcaire rémois, dans la cathédrale de Noyon, mais aussi dans tout le reste, parce qu'à Noyon, on a la chance d'avoir le cloître, ce qui est unique en France pour le Nord. le cloître, le palais épiscopal, la chapelle épiscopale, on a tout. Il n'y a que sur les portails que ce calcaire est employé. Donc, le doute est quasi impossible.
Había todavía una última pregunta. Brevemente tendrá, perdón.
À cause de la grève, non, 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 pour ce... non, non.
C'est bon. Eh bien, merci beaucoup.